Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Dans cette rubrique, Jean Pruvot traite de l'origine et de l'histoire de deux mots, brocante et café-café.
Brocante et canalée. Si l'on se passionne pour les dictionnaires, il n'est pas rare que l'on soit au passage un fervent débrocante, puisque c'est là que se cache parfois un dictionnaire oublié, au fond d'une caisse de livres, souvent mal en point. Au reste, mes premiers dictionnaires ont été achetés lorsque j'avais 20 ans et quelques, en Normandie, dans des vendus, des UES, un mot curieux qu'il serait bon d'expliquer. Que représentaient en effet les vendus du bocage normand, il y a 30 ans? Il s'agissait, au décès d'une personne, souvent un fermier, une fermière, possédant une petite maison de campagne, une petite fermette, de procéder directement devant chez elle à la vente aux enchères de tout ce que contenait la maison au bénéfice des héritiers qui n'avaient donc pas à vider la maison. Ainsi, devant le pas de la porte, la vente commençait tôt le matin, pouvait durer jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Un commissaire-priseur, homme habile, populaire, doté de l'accent du terroir, mettait aux enchères tout ce qu'au fur et à mesure on sortait de la maison devant un public souvent nombreux, intéressé par tel ou tel objet. De fait, ce mot en passe d'être oublié, la vendue, est encore défini à la fin du siècle dernier dans le Trésor de la langue française, qui signale que c'est un mot en usage dans l'Ouest, désignant une vente publique. On cite même Flaubert avec son roman de 1857, Madame Bovary, que beaucoup d'entre nous ont lu, sans probablement repérer que le mot y est bel et bien attesté. Trois aunes de guipure trouvées dernièrement dans une vendue, peut-on en effet y lire. Et Lavarande de préciser d'ailleurs aussi dans Bric-à-brac, en 1953, que les ventes, dans le pays normand, s'appelaient encore des vendues. La brocante met en présence des objets curieux et en Normandie, au moment où je cherchais des dictionnaires, mon beau-frère, collectionneur s'il en est de livres et d'objets rares, cherchait de son côté des cannes à lait. Cannes, C-A-2-N-E-S. Seuls les Normands doivent se souvenir en fait de ce mot. Il s'agit en effet d'un récipient de cuivre, de laiton, dans lequel on recueillait le lait, comme on atteste encore en 1895 Pouriot dans un ouvrage sur la laiterie. Le mot comporte deux N, et de fait, on le retrouve encore aujourd'hui dans la canette de bière, ou encore avec le jerrycan, littéralement le bidon, canne, des Allemands, surnommé Jerry par les soldats britanniques en 1919. C'est le latin canna, roseau, qui est à l'origine du mot canne, tuyau, puis récipient, sans doute à partir du bec verseur en forme de tuyau. Au fait, d'où vient le mot brocante ? Origine obscure, disent les étymologistes, peut-être du germanique broc, morceau. Eh bien, il nous plaît justement que la brocante ait gardé son origine mystérieuse, parce qu'elle est sans doute ancrée au cœur de l'humanité, en tant que lieu privilégié d'échange et souvent d'heureuses négociations. Un café, au café ou au bistrot. Pour désigner les lieux où se désaltérer, les mots ne manquent pas et il serait bon d'y mettre d'emblée un peu d'ordre, à la manière de Léon-Paul Fargue qui, dans le Piéton de Paris en 1939, déclare avec nostalgie que les cafés de Montmartre sont morts, remplacés par des débits, des bars ou des grilles, et ajoute-t-il sur le ton de la confidence, « Je connais pourtant un petit bistrot, un bois et charbon, où le bonheur et le pittoresque se conçoivent encore. » Alors essayons de nous y repérer, commençons par le café. En vérité, c'est au XVIIe siècle qu'est entrée en France cette plante dont on fait la décoction, que l'on connaît, avec de multiples variantes, du café turc au café italien. Mais ce n'est vraiment qu'au XVIIIe siècle que, selon le témoignage de Savary des Brûlons, extrait donc du dictionnaire du commerce de 1723, les cafés de Paris, dit-il, se sont répandus et que la plupart de ces établissements correspondent à des réduits magnifiquement parés de tables de marbre, de miroirs et de lustres de cristal, où quantité d'honnêtes gens de la ville s'assemblent, autant pour le plaisir de la conversation et pour y apprendre des nouvelles que pour y boire cette boisson. Tous les amateurs de littérature savent combien le Procope et la Régence étaient alors célèbres. Ce dernier café constituant d'ailleurs le cadre du roman de Diderot, le neveu de Rameau. En fait, si on compte environ 300 cafés en 1723, il faudra en doubler le chiffre 5 ans plus tard, mais dès la fin du XVIIIe siècle, le café n'était déjà plus une boisson exotique. Et lui, Sébastien Mercier, dans le Tableau de Paris, signale même que le café au lait est très apprécié chez les ouvriers de Paris. Cette boisson, affirme-t-il, ayant pris faveur parmi ces hommes robustes, en devenant un éternel déjeuner. Avec le XIXe siècle, les cafés en tant que débit de boisson se multiplient encore davantage, hiérarchisés selon leur taille et leur rôle, du petit café du coin au café-restaurant et au café-concert, à son apogée en 1914. Quant au café, où l'on s'assomme d'alcool, c'est tout simplement un assommoir, comme en atteste le grand roman de Zola en 1877. Il faudra en réalité attendre le deuxième supplément du Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse pour voir apparaître timidement le bar, avec tout d'abord ce commentaire étymologique, mot anglais qui signifie bar, B-A-2-R-E, ou comptoir de cabaret, et par extension le cabaret lui-même. C'est bien effectivement la bar française du comptoir qui est à l'origine du mot anglais bar room, littéralement pièce où se trouve cette barre de comptoir. La définition offerte ensuite est d'ailleurs sans ambiguïté, sorte de cabaret où l'on consomme presque exclusivement sur le comptoir, suivi d'un commentaire encyclopédique explicite. Le bar ne désigne autre chose que ce qu'en argot parisien on appelle le zinc, c'est-à-dire le comptoir du marchand de vin, sur lequel toutefois on sert non du vin, mais des boissons variées telles que thé, café, grog, punch, bière, alcool divers. L'équipe Larousse du XIXe siècle en profite pour pester contre le barman et ses barmaids, debout à côté de pyramides de sandwichs qui, déclare-t-elle, permettent à John Bull de se sustenter vite, vite, entre deux affaires, car time is money. Le bar, importé d'Angleterre, n'est vraiment pas encore en odeur de sainteté, on lui préfère de loin le bistrot, qui, comme il est défini dans le dictionnaire de l'Académie française, représente un débit de boissons, estaminé, petit restaurant populaire, avec par ailleurs un style particulier, d'où le mobilier style bistrot. Mais ici, l'origine étymologique est obscure. On a dit en effet à tort qu'il venait du russe « bistro », vite hurlé par les cosaques assoiffés qui occupaient Paris en 1814. On se demande plutôt aujourd'hui s'il ne faudrait pas le rattacher au dialectal « bistrot », B-I-S-T-R-A-U-D, désignant le petit domestique. Eh bien, quoi qu'il en soit, continuons d'aller prendre un petit café au bistrot du coin, un mot bien sympathique, un petit café certes, mais sans doute avec de gros croissants.